Alors, je m'appelle Mario Paquette, de mon métier animateur de radio. Alors, ce soir, je serai un passeur. Passeur d'une histoire qui est celle qui a précédé l'installation de la communauté des fraternités monastiques de Jérusalem, ici à Montréal. Et c'est une histoire qu'on va vous raconter en compagnie de Mireille Étier. Mireille qui a été là depuis les tout débuts avec Bruno Lavallée et qui ont vraiment beaucoup porté ce projet dans
mais
la prière.
Mais pas trop, là.
Bon, d'accord. Alors, on compte pas le nombre d'allers-retours qu'ils ont fait entre Québec et Montréal et les nombreux allers-retours également entre le Québec et la France. Est-ce que tu les as déjà comptés, Mireille? Non, on les a jamais comptés. Alors, on va y aller bien spontanément ce soir. On aura des invités surprises. Parfois, on va donner la parole à des gens dans la salle. La plupart le savent. Il y en a peut-être qui ne le savent pas. Alors, vous aurez la surprise. Et on va vous raconter l'histoire en grande simplicité. Bien sûr, il y a des dates. On va essayer d'y aller de façon chronologique. On va essayer de vous intéresser. Et je vous dis tout de suite que ce que vous allez retenir, je vous vends déjà le punch. Ce que vous allez voir à l'œuvre, c'est l'esprit. Tout au long de cette installation, de cette fondation. Alors Mireille, j'aimerais qu'on commence et par le début, la première intuition. Qu'est-ce que c'est cette intuition? Comment ça s'est passé?
Vous savez, c'est un peu fou. Quand on regarde aujourd'hui qu'on est au 10e et j'ai eu à rédiger un petit peu la petite histoire, l'histoire de avant que les fraternités arrivent, et je me dis, mais c'est fou ce que l'Esprit-Saint nous a fait faire. Je le découvre avec émerveillement. Je n'ai pas l'impression que nous avons fait quelque chose. On n'a rien fait, on n'avait pas de projet. Tout simplement, on découvrait, on était seulement docile à l'Esprit. Moi, j'avais un petit problème. Avec mon mari, on est Bruno. On avait une maison de formation en gestion à Québec et à Montréal. Donc, on faisait souvent la route entre Québec et Montréal. On embarquait des allo-stop. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. C'est une forme de covoiturage. On prend des jeunes à une place, on les débarque à l'autre. Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu, puis de parler d'Église, puis de parler... Qu'est-ce que vous voulez? Ça me coule d'un vin. Donc, quand tu es en auto pendant 2h30 de temps, il y en a qui sont captifs, puis tu en parles, ben, le plus le fun possible. Tu as envie de donner le goût de Dieu au monde, tu sais. Puis quand j'arrivais au bout, c'était tellement de frustration, je me disais, bon sang, je les laisse là. On a eu, c'était vraiment, on avait des belles rencontres. C'était vraiment frustrant, je me disais, mais je voudrais tellement avoir un endroit où les envoyer. Quand j'arrive, juste quelque chose de beau, quelque chose où, sans plus, je n'avais pas de définition, rien. Ça me fatiguait. 1999, on se retrouve en France, Bruno et moi, et on arrive à Châteauneuf-de-Galaure.
Alors, Châteauneuf-de-Galaure, pour préciser, c'est le lieu où... Alors, Bruno, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai pu lire, ou j'avais été frappé par la vie de Marthe Robin, ce qu'elle a fondé, les foyers de charité, etc. Alors, j'étais avec Mireille chez notre fille qui est à Pont-Saint-Esprit, qui est en communauté, aux Béatitudes. Pont-Saint-Esprit, c'est tout près d'Avignon. Et là, je disais à Mireille, moi, là, je veux rentrer à Paris, mais je veux suivre le Rhône et puis aller à Châteauneuf-de-Galaure. Bon. Alors, on s'en va à Châteauneuf-de-Galaure. Par hasard, il n'y avait personne, sauf deux dames qui gardaient la maison de Marthe Robin. On entre, elle nous invite à aller dans la chambre de Marthe Robin. C'était exactement comme les images que j'avais vues dans les livres, bien sûr. Et donc, on se met à genoux comme deux enfants et on se met à prier, Mireille et moi. Et on demande à Marthe Robin de nous aider à trouver notre mission commune en Église, tous les deux. Alors, on prie, on s'en va. Puis avant de partir, on va aller sur sa tombe qui est à Bonnet. Alors, on s'en va sur la tombe de Marthe Robin et on recommence notre prière encore une fois. On voulait que ça soit solide, là, bien comme il faut. Alors, après ça, on part et on s'en va à Paris. C'est 2 ans plus tard qu'on a réalisé que notre prière avait été exaucée. Tu sais, on demande des choses, on les reçoit, puis on oublie ça. Tu sais. Non, non. 2 ans plus tard, sais-tu, Mireille, C'était notre prière qui a été exaucée. Nous avons trouvé notre mission en Église. Mais elle n'était pas si facile, je peux vous le dire. C'est une mission qui nous a tenus vraiment occupés.
Merci, Bruno. Et retenez bien, parce que là, ça fait partie du scénario. Ça fait partie du scénario ce soir. Retenez bien, il y a une importance de Marthe Robin. Alors, Mireille, on continue.
On est à Paris et c'est la fête, le lendemain, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Et moi, j'avais tellement le goût d'une belle liturgie, là, je me disais, mais où est-ce qu'on peut aller? Et très vaguement, à Québec, on avait déjà entendu dire, il y a des moines à quelque part à Paris. La seule indice que j'avais, c'est du côté gauche de Notre-Dame quand on est face, en face. Puis c'est pas loin de l'hôtel de ville en arrière. On s'est dit, on va marcher, puis on va voir si on trouve une église dans ce coin-là. Effectivement, on trouve une église qui s'appelle Saint-Gervais. C'est pas facile à trouver, hein? On la voit pas émerger. Tu sais, des fois, tu vois des clochers qui dépassent partout. Non, 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 elle, la voit pas. Faut que tu tombes dessus. Et on est tellement séduit par la liturgie. C'est une messe de vigile à ce moment-là de la fête. C'est rempli. Ça chante, c'est des jeunes, on reste debout, bon, on est bien content. On rentre à la maison, bien là où on habitait, et moi je ne dors pas de la nuit. Et un signe qu'on s'était dit, notre mission en église, c'est qu'on recevra le même appel tous les deux. J'avais Thiaud qui se réveille, j'ai dit, Bruno, as-tu déjà pensé, moi je me sens, il faut qu'il vienne au Québec. Et il me répond, bien tu sais, moi j'ai souvent pensé, j'ai souvent voulu que avoir un temps de travail, une partie de ma journée au travail, puis une partie de ma journée dans la prière, dans l'église. Bon, petit coup d'œil, il y a quelque chose qui se ressemble. On rentre, on retourne à Paris, parce que là, c'est la grande fête, puis c'est à la messe et tout. La première sœur qu'on voit, on tire par la manche, puis on lui dit, « Avez-vous déjà pensé venir à Québec? » Nous autres, c'est à Québec, parce qu'on habitait à Québec. Hein?
La petite sœur à qui on avait tiré la manche, c'est Cécile. Cécile, tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il y a le lien avec... Et avant, il y a le lien aussi avec Marthe Robin qu'il ne faut pas oublier.
Oui, que je viens de retrouver. Parce que moi, j'étais à l'école à Châteauneuf-de-Galore pendant 3 ans en pension chez Marthe. Je suis une fille de Marthe. Bon, je rentre dans la communauté. Et puis... Alors là, je vous dis vraiment comment ça s'est passé aussi l'Esprit-Saint. Moi, je suis d'origine bretonne, les Bretons, ils ont la tête dure, on était plusieurs et on s'est dit on va faire une neuvaine pour qu'il y ait une fondation en Bretagne. Et pour que ça marche mieux, on va faire notre neuvaine en breton. Alors je trouve que notre Père et que je vous salue Marie en breton, je les écris de ma belle encre bleu turquoise et je le donne même à Pierre-Marie. Et je vois que Pierre-Marie commence son oraison du soir en lisant mon Notre Père et mon Je vous salue Marie en breton. On fait notre neuvaine, et le dernier jour de la neuvaine, on est en désert à Magdala, et là, je feuillette une revue, Feu et Lumière, des Béatitudes, et il y avait tout un reportage sur les marins bretons qui ont fondé la Nouvelle-France. Et là, un éclair à l'intérieur, c'est comme ça que le Seigneur me parle, c'est pas très sérieux, mais c'est comme ça, eh bien, ta neuvaine, je la détourne pour Montréal. Ça n'a pas de bon sens, mais depuis ce temps-là, j'ai abandonné mon rêve d'aller fonder en Bretagne. D'abord, on a fondé juste en Normandie, à 100 mètres de la Bretagne, mais c'est frustrant. Et j'avais cette certitude, et j'en parlais un petit peu, et même un jour, Marie m'a dit « Écoute, tais-toi un peu avec le Canada. » Et voilà, et un moment, pendant 2 mois, toutes les semaines, il y avait des Québécois qui venaient m'arrêter dans la rue ou au petit magasin. Et moi, l'accent, je l'aime bien. Et puis, ben, il me dit, oh, c'est beau chez vous. Oui, oui, très bien. Et puis, voilà qu'un jour, on me dit, ben, faut que vous veniez au Québec. À votre avis, j'ai réagi comment? Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais...
C'est seulement plus tard. On ne le savait pas. Et plus tard, on racontait ça. On dînait chez les sœurs un midi, en 2003. Et puis, c'est là qu'elle nous a dit, mais j'étais morte de rire, mais il ne fallait pas que je le dise. Alors, bref, à ce moment-là, elle nous dit, il faut parler aux prières. C'est qui le prière? Pierre, bon, ben, où est-ce qu'il est? Ben, elle dit, je ne sais pas s'il est ici, il vaudrait mieux lui écrire un mot. Hey, je prends une napkin que j'avais dans mon sac, je m'assois, je commence à griffonner et Bruno me dit, Mireille, il est là-bas. Il voit quelqu'un qui marchait d'un pas très assuré. Alors Bruno dit, je suis sûre que c'est lui, on court après, on tire une autre manche. Et là, c'est là que je lui dis, d'aucuns le savent, on va le dire pour ceux qui ne le savent pas, je lui dis, il faut que vous veniez à Québec. Il me répond, oui, oui, nous devons venir à Montréal. Oh! Oh, vous pouvez bien rire. Les gens de Montréal, ils trouvent ça très drôle. Mais à Québec, on ne trouve pas ça drôle. Alors, dans la conversation, je redis, parce que moi aussi, je suis peut-être dure, je dois avoir un petit côté breton, peux-tu? Je lui dis, il faut que vous veniez à Québec. Oui, oui, nous devons venir à Montréal. Je me suis dit, toi, t'as la tête dure, mais moi aussi, je l'ai dure. Je reprends une troisième fois à Québec. Oui, oui, à Montréal. Et là, ça a vraiment déferlé dans ma tête. Trois fois m'aimes-tu, trois fois la trahison, trois fois trois jours au tombeau. C'était plein de trois bibliques. Et là, je me suis dit, moi, je l'ai vu dans mes bebelles puis dans ma cour à Québec. Mais peut-être que l'Esprit-Saint a un autre projet.
Tu vas devoir élargir ta cour.
Ça fait que là, la cour, on a dit, bon, ben c'est correct. Trois jours après, on rencontrait une grande amie qui n'est pas là ce soir. Elle est décédée maintenant, Lucie Vanier-Vincent. Elle était à Paris en même temps et on s'était dit, si on se rejoint, on se rencontre, évidemment. Et on lui dit, Lucie, c'est fou, il faut que les fraternités monastiques viennent à Québec. Il faut qu'on vous amène. Oh, mais elle dit, je suis allée m'acheter une cithare chez eux aujourd'hui. Elle avait vu ça, elle, à Montréal, dans France catholique, je pense. Elle est allée s'acheter une cithare. Les moines l'avaient invitée à dîner. Alors, là, le feu prend. Entendez-vous, on était deux ou trois réunis, puis ils gardent.
Oui. Alors, l'importance de Lucie Vanier-Vincent. Lucie Vanier connaissait bien le cardinal Turcotte et elle aura un rôle très, très important.
Oui. On avait demandé à Sœur Cécile, évidemment, on avait dit, y a-t-il un moyen, y a-t-il du monde à Québec, y a-t-il du monde qui ont laissé des adresses déjà? Je m'excuse hein, pour le tableau, c'est parce qu'on a un petit livre qu'on pourra vous montrer, qui a plein de photos, mais vous savez ce que c'est, on est toujours en retard. Puis tantôt, j'ai même été un peu en retard au verbe, parce que j'ai rien eu le temps de mettre des titres, j'ai même pas eu le temps de mettre les photos. Ça pourrait venir, mais bref, bon, c'est surtout une aide-mémoire, parce que faut qu'on se restreigne. Donc, on est avec Lucie. Elle dit, comme la générosité, la bonté et l'accueil de Lucie, venez chez moi n'importe quand et tout. Donc, on avait demandé et on nous avait dit, ben, on a des abonnés à Source Vive. Est-ce que vous accepteriez de nous donner l'adresse? On communique avec chacun en disant avec beaucoup de délicatesse, on ne vous achalera pas. Mais si vous voulez, si vous aimez parler, penser, préparer une éventuelle venue. Donc, je résume, on se donne un rendez-vous. On est 6 ou 7 un soir. Il y a une belle photo dans mon livre. Je n'ai même pas pu la mettre. C'est bien, c'est correct. Et puis, là, moi, j'ai dit aux autres, je suis sûre qu'ils vont venir sur un appel de l'évêque. La plupart des communautés nouvelles aiment beaucoup être appelées, elles veulent vivre en Église, et puis il ne suffit pas que quelqu'un dise « Ah ben j'aimerais que vous veniez », c'est un appel de l'évêque. Alors, on a dit, je leur ai demandé, est-ce que vous accepteriez de signer? Parce que nous autres, c'était tellement la fin du monde, là, était demain matin la fin du monde, alors il fallait que tout aille vite. Alors, est-ce que vous accepteriez de signer une lettre, puis je la rédigerai à partir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui? On avait un jeune avocat qui était là. Il m'a dit, « Toi, t'es la première puis la dernière à me faire signer une feuille en blanc. » Jacques Lauzon. Il est souvent ici. Je vais essayer de l'appeler. Là, j'ai pas eu le temps de l'appeler avant qu'on arrive. Alors, on signe cette lettre-là. Lucie, c'était notre émissaire. Lucie, le cardinal la connaissait bien à Montréal. Alors, on envoyait Lucie, on préparait les papiers, Lucie partait. Lucie, alors, elle s'en va porter. Écoutez, Paul, quelques jours après, on avait une réponse. Oui, ça m'intéresse. Pas longtemps après, je vais confier à Monseigneur Rivet, Monseigneur André Rivet, de vous accompagner dans cette démarche. On peut-tu demander plus? C'est-tu fou? Hein? Il y a tellement de folie dans cette fondation-là qui nous dépasse. Alors, on a cheminé, on a avancé comme ça. Donc, Là, on était 99 et le 5 avril, on a le oui du cardinal. Le Monseigneur André Rivet nous accompagne. Déjà 2001, il s'en va à Paris pour rencontrer les fraternités parce que, écoutez, là, les correspondances, puis on se téléphonait avec Pierre-Marie, puis on, ça marchait, puis ça roulait. Puis là, déjà, on envoyait, et l'espèce de petit journal que j'ai rédigé là-dessus, en fait, c'est à partir de tous les communiqués qu'on faisait à ce moment-là, les lettres qu'on voyait, qu'on envoyait, que frère Pierre Manerie nous répondait. Donc, Monseigneur Rivet part à Paris. Écoutez, la veille, on se retrouve chez lui. Adèle était là. Il y avait Robin qui était là. Et puis, avec Bruno. Bruno offre à Monseigneur Rivet, si vous voulez, on va prier pour vous, sur vous. On va vous envoyer en mission auprès des fraternités monastiques. Moi, je ne me cachais pas. Mais Monseigneur Rivet, tellement bon enfant, tellement oui, 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 puis on prie sur Monseigneur. On a envoyé Monseigneur Rivet en mission. Je pense que l'innocence, notre innocence corrigeait nos, peut-être notre irrespect. Je dirais ça comme ça, mais enfin, bon. Donc, on l'envoie là-bas. Mais, bon, il allait voir pour les fraternités, mais en même temps, nous autres, le groupe de laïcs, c'est qu'il faut dire que depuis la première fois, la première rencontre, on savait qu'il y avait des vêpres sur Catéo. On se rencontrait et tout de suite, on commençait par les vêpres. Mais à l'époque, ça coupait, ça arrêtait, ça n'avait pas de bon sens. Alors, ça ne fait rien. On continuait jusqu'à l'Évangile. Puis là, on se disait, bien, après, on va continuer, on va lire notre Évangile. Mais au moins, on était toujours reliés par la liturgie.
Mais ça, c'est fondamental, Mireille, parce que l'élément de la liturgie a été présent dès le départ, Catéo via Internet, et ça s'est poursuivi. Il faut avancer un peu.
Oui.
Bon, il y a Paris, mais j'aimerais que, puisqu'on parle de la liturgie, l'occasion est belle, Mireille. Il y a quelque chose qui s'est passé en avril 2001 à Notre-Dame de Bon Secours, dans le Vieux-Montréal.
C'est qu'on nous avait dit à Paris, bon, là, à Paris, frère Pierre-Marie avait demandé à sœur Esther, qui était responsable des fraternités évangéliques et 80, avait demandé à Sœur Esther de nous accompagner, puis Geneviève Cheng, qui était une dame, bon. Et là, Sœur Esther nous envoyait plein de feuilles de liturgie pour qu'on soit capable de chanter les liturgies. Et elle nous dit, vous savez, il serait préférable que vous vous rencontriez et que vous chantiez la liturgie dans un lieu d'église publique plutôt que dans une résidence privée. Parce que ça personnalise trop dans une résidence privée. Parfois, il y a des personnes qui peuvent... Bon, bref, je ne fais pas tout le discours, mais... Alors, nous, on cherche, et là, on trouve sœur Monique Tremblay, qui est à Notre-Dame de Bon Secours, une sœur de... Congrégation Notre-Dame. Ravie, elle aurait voulu les moines chez eux. C'est sûr que vous seriez à Notre-Dame de Bon Secours si ça avait été rien que d'elle. Donc là, on commence des vêpres, on appelle ça... C'était encore entre nous, parce qu'on se sentait un peu timide, on ne se sentait pas prêt. On invitait tous ceux qui voulaient venir, mais disons qu'on n'annonçait pas ça, tu sais, publiquement avec des affiches et tout. C'était encore, on avait une petite gêne à quelque part, là. Bon, donc on commence, et c'est la première fois, des vêpres publiques. C'est un moment important. Octobre, écoutez, là, on est en octobre 2001, puis tout ça a commencé en 99. Parce qu'il y a les médias qu'on entretenait, on envoyait des petites shots un peu partout, tout le temps, puis on mesurait ça pour ne pas tanner personne, puis en même temps qu'on en parle tout le temps. Et là, Radio Galilée à Québec, on se met à avoir des appels, mais il faut qu'ils viennent chez nous, puis il faut qu'on... Puis on a dit, on va commencer par chanter de la liturgie. Alors, nous, voilà, tu pas en train de chanter des vêpres à l'église Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Alors là, il fallait alterner, parce que nous, on partait de Québec, on arrivait à Montréal. Donc, on faisait une fois par mois à Québec, une fois par mois à Montréal, puis Montréal, en plus, on ajoutait les grandes fêtes. Donc, c'était vraiment, on était rythmés sur la liturgie, en fait. Mise sur pied d'un comité de soutien. Alors, Bruno, avec Monseigneur le cardinal Turcotte, il tenait beaucoup avec des gens du diocèse et tout. Et de là va être formée la Fondation des Amis, dont Pierre-Marie Cotte va être après ça. C'est lui qui va vraiment donner là, l'ampleur puis l'expansion. Mais déjà en 2001, ces éléments-là étaient mis en place.
Autre voyage en Europe?
Là, c'était un moment important. C'était le 25e anniversaire des fraternités évangéliques à Paris. Adèle était là, d'ailleurs. Adèle faisait une retraite chez les sœurs. Moi, j'étais toujours poignée en train de... Alors, je pars en Belgique. Je rencontre tout le monde en Belgique, les comités de pastoral, tous ceux qui étaient impliqués pour les fondations, parce que je voulais toujours savoir comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. On a demandé aux gens de Blois quelle erreur il faut éviter, qu'est-ce qui... Et ça nous aidait, ça, pour préparer la fondation. Donc, 25e anniversaire, non seulement ça, nous, à ce moment-là, on était comme poussés dans le dos. Là. Moi, j'allais avoir du monde au bout de la vingt pour les envoyer à quelque part. En même temps, on était complètement saisis, on était embarqués, mais je ne voyais pas, c'était toujours « on fait venir les moines ». Je ne voyais pas vraiment qu'est-ce qu'on était, qui on était, qu'est-ce qu'on avait à faire là-dedans, les laïcs. Et on se retrouve là-bas, et là, il y a une table ronde avec une Bernadette de Lizy, Bruno Segondi, en tout cas, des personnes qui ont toute une réflexion sur, je dis le mot maintenant, arrimage entre personnes laïques, personnes consacrées, bon et tout. Et là, ça m'est arrivé, mais avec une douche de l'Esprit-Saint, mais en fait, nous aussi, on le reçoit, il me semble que c'était évident, mais je le recevais de manière nouvelle, nous aussi, on le reçoit, ce charisme de Jérusalem, d'être des êtres de prière dans la ville, d'être des êtres des canaux vers le Père. Et là, je dirais que ça a pris toute une ampleur. Ça a été quelque chose de vaste. C'était plus juste on fait venir les moines à Québec. C'était on réalise notre être de chrétien aussi dans cette aventure-là. Et c'était pas juste pour eux, mais c'était en même temps les laïcs qui allaient vivre quelque chose avec eux.
Tu avais cette belle expression cet après-midi quand on parlait de la causerie, Mireille, tu parlais du poumon des laïcs et du poumon des consacrés.
Bien, c'est que, rapidement, il y a la table pastorale du plateau Mont-Royal avec Pierre Côté, qui était vicaire épiscopal à ce moment-là, et il m'a invité tout de suite en disant, bien, moi, je fais venir les curés, mais je veux aussi que les responsables des groupes. Et là, quand j'arrivais, on me disait, bon, toi, c'est Jérusalem. Et je mettais toujours ça très clairement. Non, nous, on représente le poumon laïque, on prépare le terrain, et le poumon monastique s'en vient. C'était toujours très clair. Et Pierre Côté a été formidable parce que moi, je l'ai vraiment entendu dire aux prêtres puis aux responsables de groupe à ce moment-là, on a deux choix. Les fraternités monastiques s'en viennent. On a deux choix. Ou bien on se frotte les mains en se disant, oh, on va regarder comment est-ce qu'ils vont se casser la figure eux aussi, parce que ça arrivait souvent que des Français se cassaient la figure au Québec. Alors, on va voir eux aussi. L'autre possibilité, c'est qu'on se relève les manches et on essaye de voir comment on pourrait les aider pour s'implanter. Ça a été vraiment précieux parce que ça a créé autour et avec les paroisses, tout de suite avant l'arrivée, une espèce de synergie, de travail avec les autres qui allaient. Bon.
Mireille, si on avance
oui,
un peu,
vite.
9 décembre.
Oui.
9 décembre, et là...
9 décembre, on apprend que ça va être à Saint-Sacrement. Oh. En 30 secondes, vous dire qu'on savait que les évêques cherchaient un lieu. Ils avaient trois endroits en tête. On le su beaucoup plus tard quels étaient les trois endroits. Mais le premier en tête était le sanctuaire du Saint-Sacrement. Le vicaire épiscopal avait responsabilité le jeudi d'appeler les pères du Saint-Sacrement à Québec et de leur dire, parce qu'ils n'avaient aucun indice que les pères auraient pu vouloir partir, et il devait les appeler, demander quelles sont vos intentions, quels sont vos projets d'avenir et tout. C'était le jeudi. Le mercredi, rentre un téléphone du père Dionne à Québec, disant à l'archevêché, « Nous devons quitter le sanctuaire du Saint-Sacrement. Nous sommes prêts à tout vous donner. » Et ils étaient un petit peu malheureux parce qu'ils se disaient, « Mais il y a tellement d'églises qui ferment, ils ne vont pas en prendre une de plus. » Ils se sentaient comme une charge. Est-ce que vous accepteriez? Est-ce que vous auriez quelque chose à faire? Je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici parfois quand le cardinal Turcotte évoquait cet événement-là. Et je l'entends toujours dire, vous savez, nous autres, les évêques, on n'est pas très, très... Les signes, là, tu sais, on ne court pas après. On n'a pas besoin. Bon, notre foi est assez solide, là. Mais celui-là, on peut vous dire qu'on le ressent en pleine face.
Mireille... Ce serait le moment d'accueillir un autre invité,
ah oui.
Le père Taffé. Et parmi nous ce soir, Père Taffé, est-ce que vous êtes là?
Alors, bonsoir. Alors, j'ai eu une commande de 3 minutes. La question à laquelle je dois répondre est la suivante. Quel fut l'impact que l'arrivée de la fraternité monastique de Jérusalem a causé en arrivant dans la communauté? Alors, quand les moines sont arrivés, c'était dans un contexte où nous n'étions plus capables de nous occuper de la fraternité à cause de l'âge, du nombre restreint des personnes. Donc, le premier impact de cette arrivée a été, en quelque sorte, de nous mettre de l'espérance dans le cœur. Parce que nous quittions, et d'autres arrivaient, pleins de bonne volonté, tout jeunes, dans l'ensemble, et pleins de projets. Alors, le premier impact a été de nous libérer et de créer en nous une espérance qui n'a pas été déçue. Et même avant l'arrivée, le père Gérard Busque a collaboré à ce que nous appelions tantôt le comité de préparation. Alors, quand les moines sont arrivés, nous avons eu un impact de satisfaction au sens où nous avons constaté que l'œuvre traditionnelle de ce sanctuaire, qui a toujours été l'adoration du Saint-Sacrement, était maintenue. Et l'adoration du Saint-Sacrement était maintenue même plus que le jour. On a même organisé la chapelle, qui autrefois était la chapelle des mariages, en chapelle d'adoration. Et à ce niveau-là, ma communauté a eu une réaction extrêmement belle et de contentement. Et concrètement, nous nous sommes engagés, le père Busque a travaillé les premières années très intensivement, et moi j'ai eu l'occasion de travailler aussi pendant plusieurs années, tous les mardis, pour confesser et célébrer l'Eucharistie. Donc ça a eu un impact d'engagement dans notre communauté. Au début même, lorsque nous étions plus nombreux à Montréal, à l'occasion des confessions, et il y a plusieurs religieux de notre communauté qui venaient. Et là, on peut souligner aussi le travail que le père Bussière a fait une soirée. Il a fait une soirée sur l'histoire. Et même, il a célébré l'Eucharistie. Je me rappelle toujours qu'il a failli tomber, mais c'était une belle collaboration. Alors, nous avons été très heureux de voir que ce que nous appelions l'agrégation du Saint-Sacrement a été transformé dans une formule plus moderne qui, aujourd'hui, sont les veilleurs. Alors ça, pour nous, c'est un impact qui crée de la satisfaction. Alors moi-même, j'ai eu l'occasion de collaborer et je m'en félicite aujourd'hui. Je conclurai que la réaction de la communauté que je représente ce soir a été positive. Nous sommes heureux d'avoir été remplacés par des personnes qui non seulement nous ont remplacés au niveau de l'apostolat de l'Eucharistie, mais qui ont créé toute une série de mouvements qui vont de la prière, de l'Eucharistie, de la parole de Dieu et l'engagement des laïcs. Et aujourd'hui, la fraternité, si on regarde l'ensemble, c'est comme une graine qui a donné une multitude de branches. Et je pense que l'explication la plus profonde de cette réalité, et ce qui me fait plaisir de le dire, que c'est la qualité de vie des moines que nous avons reçus.